Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, nous parlons d'actualité scientifique dans l'émission Biotine. Biotine, depuis une quinzaine d'années maintenant, vous propose toutes les semaines de nous arrêter un petit peu sur l'actualité scientifique parce que ça nous concerne tous, ça concerne notre quotidien et on feuillette comme ça un petit peu tous ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce samedi 11 novembre. Au niveau de l'éphéméride, c'est le premier vol premier avion à réaction français, il s'appelait SO-6000 Triton. C'était en 1946, c'était un 11 novembre. Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un 11 novembre, il y avait donc ce premier vol. Et en 1982, toujours un 11 novembre, c'est la première mission opérationnelle de la navette spatiale américaine Columbia. C'était en 82, Columbia déjà. Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr. Naissance, le 11 novembre 1930 de Mildred Dresselhaus. C'est une physicienne américaine qui était née à Brooklyn. Donc, un 11 novembre, ses travaux dans la physique des nanotubes de carbone et dans la thermoélectricité l'ont rendue célèbre, Dresselhaus. Durant sa carrière, elle occupe les postes de directrice de l'Office des sciences du département de l'énergie des États-Unis. Elle est trésorière de l'Académie nationale des sciences. Et en 1984, elle préside la Société américaine de physique et également l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Mildred Dresselhaus, elle est notée notamment pour ses travaux sur le graphite. Ah, ça nous dit quelque chose, bien sûr. Les fullerènes, les nanotubes de carbone, l'effet, comme je l'ai dit, thermoélectrique à faible dimension. En fait, ces recherches, elles ont contribué à la technologie des couches minces de graphite, ce qui va permettre l'ubiquité de l'électronique, notamment dans l'utilisation dans des vêtements, dans des téléphones intelligents. Donc effectivement, ce sont des technologies actuelles qu'on utilise et c'est grâce aux découvertes de cette physicienne américaine. Et pour cela, elle invente justement des techniques pour étudier les couches individuelles d'atomes de carbone dans le graphite. Donc on est vraiment dans l'infiniment petit. Et elle découvre comment capturer l'énergie de ces particules en vibration pour pouvoir produire de l'électricité. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, en 2017. Mildred Dresselhaus, donc née un 11 novembre. Décédé, lui, un 11 novembre 1886, c'est le décès de Paul Bert, physiologiste et homme politique français, médecin également. Il étudie la physiologie de la respiration en altitude et en plongée. Il s'intéresse à la greffe et à l'anesthésie. Alors, Paul Bert, ou Bert d'ailleurs, B-E-R-T, je ne sais pas si on prononce le T, il était anticlérical, il est l'un des fondateurs de ce qu'on appelait l'école gratuite laïque et obligatoire qu'instaurent notamment les lois, bien sûr, de Jules Ferry. Il succède à Jules Ferry comme ministre de l'instruction publique et des cultes en 1881. Oui, à l'époque, on parlait d'un ministère de l'instruction et non pas de ministère de l'éducation, ce qui n'est pas la même chose. En fait, le nom de Paul Bert est associé à la physiologie de la plongée sous-marine. Il est le premier à avoir décrit de façon systématique l'état de convulsion lié à la toxicité de l'oxygène sous forte pression partielle pour le système nerveux central. C'est ce qu'on appelle l'effet Paul Bert. Il va appliquer ses connaissances à la réalisation d'un scaphandre muni d'un régulateur de pression. Il travaille également durant les années 1870 sur les gaz anesthésiants, notamment le protoxyde d'azote. En 1874, il prépare les aéronautes Joseph Crozet-Spinelli et Théodore Civel à une ascension en ballon à 7300 mètres d'altitude. Nous sommes en 1874. L'année suivante, alors que les deux aéronautes se lancent dans une nouvelle ascension en compagnie d'un troisième homme, Gaston Tissandier, ils ne reçoivent pas à temps une lettre de Paul Bert qui les informe que leur réserve en oxygène ne sera pas suffisante pour trois hommes. Ils n'ont pas reçu l'information, ils sont montés donc avec ce ballon, cette ascension, et il y en a deux sur les trois qui vont décéder. Le troisième, Gaston Tissandier, va survivre à cette expédition, mais donc justement ils n'avaient pas eu l'information de Paul Bert qui lui travaillait bien dans ce domaine-là. C'était intéressant de pouvoir s'arrêter sur ces deux scientifiques, cette physicienne américaine et ce médecin physiologiste français. Pour ce 11 novembre, nous allons un petit peu, feuilleté la revue de presse d'actualité scientifique, il y avait pas mal d'informations qu'on n'a pas encore eu le temps de bien développer les semaines précédentes avec Carole, parce que l'actualité, elle n'arrête pas toutes les semaines. Donc je n'ai que l'embarras du choix. Je voulais juste, peut-être, comme c'est comment dire, une année olympique qui se profile, parler de sport et notamment de cette nouvelle étude qui souligne l'importance de l'activité physique dans le traitement de la santé mentale, notamment ce qui va être le traitement de la dépression, le traitement de l'anxiété, mais également l'importance de l'activité physique dans l'amélioration de la santé physique en général. Pour la première fois, il y a des chercheurs qui ont proposé à des patients souffrant d'anxiété ou de dépression de choisir leur thérapie préférée entre soit la prise d'antidépresseurs ou alors la course à pied. Et les résultats qui ont été publiés dans The Journal of Affective Disorders, ils ont été présentés lors de la 36e conférence du Collège européen de neuropsychopharmacologie qui s'est tenue à Barcelone. Et c'est donc du coup une découverte qui a été assez retentissante, qu'on n'a pas nécessairement bien évoquée dans les différents médias, mais en tout cas cet article de Futura s'y attarde et c'est assez intéressant. Alors qu'est-ce qui a été fait pour cette recherche ? Il y a eu 141 participants qui ont donc été inscrits dans ce protocole expérimental. Il y en a 45 qui ont reçu des antidépresseurs. Il y en a 96 qui ont suivi une thérapie par la course à pied pendant 16 semaines. Et donc ce deuxième groupe courait 2 à 3 fois par semaine pendant 45 minutes à peu près. Et les deux traitements ont permis une amélioration de la dépression et de l'anxiété pour à peu près 40 à 45% des participants. Donc quel que soit le choix qui avait été fait, on constate une amélioration relative, mais qui a pu être mesurée. Cependant, l'évaluation de critères physiques, notamment la fréquence cardiaque, le poids, le tour de taille, la fonction pulmonaire, la forme physique d'une façon générale, eh bien, cette évaluation des critères a révélé des différences entre les deux groupes. Par rapport à la course à pied, eh bien, les antidépresseurs entraînent une condition physique légèrement pire. C'est ça qui est intéressant. Les auteurs reconnaissent que les comparaisons entre les groupes peuvent être biaisées parce que leur composition n'est pas totalement équilibrée. On est sur 141 participants, donc on n'est pas nécessairement sur un groupe d'échantillons assez important. Donc, ils relativisent un petit peu les chercheurs. Mais il est important de dire qu'il y a de la place pour les deux thérapies dans le traitement de la dépression. C'est ce qu'a déclaré notamment la professeure Brenda Prenix, qui est responsable de cette étude. L'étude montre que beaucoup de gens aiment l'idée de faire de l'exercice, mais il peut être difficile de le faire, même si les avantages sont considérables. Donc, ils ont voulu comparer à la fois l'efficacité des antidépresseurs et la course à pied. Et du coup, on constate bien que les deux voies sont assez similaires. Et la question, elle est là. Est-ce que, du coup, si on est en mesure de pouvoir le faire, en mesure physique, mais peut-être aussi en mesure mentale, de pouvoir faire de la course à pied, cela semble être une meilleure solution, en tout cas une thérapie un petit peu plus bénéfique. Apparemment, c'est ce que donne un petit peu comme conclusion cette étude. Si vous lisez un petit peu toutes les revues d'actualité scientifique de façon vulgarisée, il y a Science et Avenir, il y a Science et Vie, vous avez parfois des petites rubriques assez intéressantes. J'aime bien piocher dedans parce que ça permet un petit peu d'avoir des petites informations pratiques entre guillemets, ou en tout cas assez brèves, mais qui permettent aussi des avancées assez intéressantes. Par exemple, en bactériologie, eh bien, on constate qu'en plus d'être très efficace contre certaines bactéries, comme par exemple le staphylocoque doré, il y a un nouvel agent antibiotique qui a été isolé d'une bactérie assez rare que l'on trouve dans le sol. Cette bactérie, elle s'appelle la clovibactine. Eh bien, on voit que cet agent antibiotique présente un mécanisme anti-évolution inédit. Il se fixe à une partie spécifique des lipides de la bactérie à la surface de la membrane, et ce qui va rendre l'émergence d'une résistance aux antibiotiques par mutation quasi impossible. C'est assez intéressant parce que du coup, on aurait éventuellement découvert, entre guillemets, un antibiotique imparable. Vous savez que l'une des difficultés des antibiotiques, Il y a ce slogan qui est « les antibiotiques, c'est pas automatique », tout simplement parce que on assiste à des phénomènes de résistance des bactéries qui vont pouvoir trouver des parades afin de pouvoir ne plus être attaquées par ces antibiotiques. Et donc, du coup, les antibiotiques deviennent de moins en moins efficaces parce que la résistance, elle est de plus en plus affirmée. Elle est, la bactérie trouve des parades de plus en plus efficaces. Dans cette expérience qui a été menée par l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, là, on est sur l'idée que, quelque part, la bactérie semble ne pas pouvoir être en mesure de trouver une parade et de pouvoir résister à cet antibiotique, parce que du coup on est sur le fait que cet antibiotique se bloque au niveau des membranes de ces bactéries qui vont du coup être totalement bloquées justement et ne pas pouvoir essayer de trouver des astuces pour essayer de s'échapper de tout cela et de pouvoir prospérer. Et cet antibiotique imparable justement pourrait bien évidemment être prometteur et donner des pistes thérapeutiques qui seraient assez intéressantes. Donc là, on est bien dans le début d'une piste de recherche. On va voir bien évidemment ensuite ce qui va pouvoir être fait, développé, expérimenté à grande échelle. Donc on est vraiment au tout début, bien sûr. Je rappelle qu'en recherche scientifique, il y a une notion de temps qu'il faut prendre en considération, bien évidemment. Mais là, voilà, ça peut être une piste assez intéressante, effectivement, à faire, à suivre, bien sûr, au niveau de cet antibiotique imparable. Au niveau des neurosciences, ça c'est une recherche française qui vient de l'Institut du cerveau qui nous explique que Science et Avenir est assez intéressant. Pour identifier une signature cérébrale spécifique de l'humour, il y a une équipe donc franco-israélienne qui a étudié l'activité neuronale de patients pendant qu'ils étaient en train de regarder des séquences de films de Charlie Chaplin, et ils montrent justement ces travaux de recherche que les scènes les plus drôles étaient liées à une augmentation des ondes gamma à haute fréquence dans le lobe temporal. Le lobe temporal, c'est une zone spécifique du cerveau. Et ça témoigne justement d'un fort engagement cognitif, et ça marque quelque part l'appréciation de l'humour. Et donc du coup, ils ont pu réussir à essayer de trouver, on va dire entre guillemets, une signature dans notre cerveau qui pourrait être assimilé justement à cette notion d'humour. C'est assez original, je trouve, le protocole expérimental qui consiste à visionner des films de Charlie Chaplin, mais après tout, au niveau humour, c'est totalement efficace. Mais voilà, au niveau neurosciences, ça permet là aussi d'avoir une identification. Je rappelle qu'au niveau du cerveau, c'est encore un domaine qui est finalement assez inconnu, et c'est un domaine d'exploration qui va être magnifique, et les prochaines années, on ne va pas arrêter de parler du cerveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont lancées, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont dont les avancées vont être prometteuses. En tout cas, on attend beaucoup de ces recherches sur le cerveau. Donc voilà, là on est sur une notion d'humour, on n'est pas nécessairement sur une notion d'une pathologie grave, bien évidemment, mais ça permet justement d'avoir des protocoles expérimentaux qui nous permettent d'identifier quelque chose de précis dans le cerveau. Donc là, c'est au niveau de l'humour. Si on arrive à pouvoir décliner ce genre de process expérimental pour d'autres choses que l'on souhaite clairement identifier, ça peut être intéressant de le faire. Voilà, ça peut être une piste intéressante à suivre, bien sûr. Vous écoutez Biotine, l'actualité scientifique de ce 11 novembre. Il n'y a pas de jour férié pour la science, ça ne s'arrête jamais, bien évidemment. On écoute aussi un petit peu de musique, parce que ça fait plaisir, sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Story of the fat cat.
Let me tell you the very strange story of the flat cat. Our flat cat, before it was fat, but now he's a little flat. Because I run over it, I crush the cat. And now he's flat, you know that? Because I've drunk a lot with my car, and now it's flat. I came back in my home after I've been drunk a lot. It was a very, very dark knight. I ran of all this fat cat, which was running in the dark. There was no moon in the deep sky. I heard claws and demarcar. I stabbed it just under an apple tree. And I looked all around me. There was nobody. Nothing else than a furious cat. A furious cat. A furious cat. A furious cat. I'm sorry, poor cat. I understand you are furious because you're flat, and before you were fat. I'm sorry, it's because I've taken my car to see some friend, and go to the pub, the cafe, the pub, and drink a beer. One beer, two beer, three beer, four beer. I take my car, I crush you. I'm sorry, because I've drunk a lot. Drunk a lot, yes, drunk a lot with my car. I don't see you, poor cat, and I crush you. And now you are furious. A furious cat. 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 And you too. And your family too. Because they don't recognize you. Because you are flat. And before. I'm sorry. A furious cat.
A furious cat sound, c'était Jaco sur l'antenne de Graphite. J'aime bien ce qu'il parle anglais aussi bien que moi, en fait, quelque part. Et ça me rassure, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. La rediffusion le mardi matin, 10h sur l'antenne de Graphite, hein, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Et bien sûr, graphite.net, le site internet où vous pouvez nous écouter en direct ou alors en différé grâce au podcast, bien évidemment, où que vous soyez, n'hésitez pas. On fait donc la revue de presse de l'actualité des scientifiques dans cette émission. Et bon, il y a des articles qui sont toujours intéressants avec des titres prometteurs et on est obligé de cliquer dessus. Et notamment cet article de Futura Science qui nous parle de l'araignée banane, donc qui est une espèce d'araignée. Je ne savais pas qu'il existait une araignée banane. Elle mesure 15 cm, elle a bien sûr 8 pattes velues et elle a un venin mortelle. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure amie de l'homme à première vue, mais il y a des scientifiques brésiliens qui se sont inspirés de son venin pour essayer de développer une molécule synthétique pour un gel qui vise à lutter contre les troubles de l'érection. Et oui, cette araignée banane, finalement, pourrait peut-être bien avoir un nom qui est totalement approprié. Il y a 30 ans, il y a un groupe de recherche qui a été créé pour étudier le venin de l'araignée banane, car des patients qui avaient été piqués par cette araignée présentaient des symptômes de priapisme, qui est une érection douloureuse et prolongée. C'est ce qu'explique à l'AFP Marcia Helena Borges, qui est chercheure de la Fondation Ezequiel Dias. Nous sommes dans le sud-est du Brésil. Et donc l'araignée banane, alors c'est le nom un petit peu commun parce qu'elle s'appelle Phonotria nigriventer. C'est une espèce parmi les plus venimeuses au monde. Elle vit en Amérique du Sud et elle est surnommée ainsi car elle est souvent retrouvée près des plantations de bananes. Donc on ne s'est pas nécessairement bien foulé pour essayer de lui trouver un nom, bien sûr, à cette araignée banane. En tout cas, dans un état brésilien dont Belo Horizonte est la capitale, eh bien, on rencontre cette araignée banane aussi bien dans les zones rurales que dans les centres urbains. Et donc, dans cette fondation Ezequiel Dias, il y a une biologiste qui saisit délicatement une de ces araignées avec une pince. Elle extrait quelques gouttes de venin en stimulant ce qu'on appelle les chélicères, c'est un petit peu les crochets avec lesquels elle mord ses victimes. Elle récupère donc ces échantillons de venin qui sont ensuite fournis à un laboratoire d'une université et le venin n'est utilisé que pour connaître les propriétés des molécules qui causent le priapisme. Nous avons créé une molécule synthétique, bien plus simple et moins toxique, c'est ce que détaille la chercheuse donc. Le brevet de cette nouvelle molécule a été acheté par la compagnie pharmaceutique Bioseus qui compte commercialiser un gel destiné à corriger les troubles de l'érection. Alors avec cette sorte de pommade qui doit être passée sur le pénis quand une érection est désirée, c'est assez, je trouve le protocole assez bizarre, les effets se font ressentir en quelques minutes, hein, donc il faut vraiment un petit peu tout chronométrer dans votre soirée. Selon donc Maria Helena de Lima qui est l'une des participantes à cette équipe de recherche, eh bien, cette recherche, elle peut également s'avérer utile dans la lutte contre le cancer de la prostate, parce que on constate qu'il y a de nombreux hommes qui refusent de se soumettre à ce qu'on appelle une prostatectomie radicale, donc c'est une ablation de la prostate en cas de cancer parce qu'elle provoque justement cette ablation des troubles de l'érection. Et donc ces troubles sont dus au fait que les nerfs érectiles sont endommagés par l'ablation de la prostate. Et donc cette molécule qui est inspirée de ce venin de l'araignée banane, ça permet d'activer la production d'oxyde nitrique qui est indispensable à l'érection car il favorise la dilatation des vaisseaux. Et il peut être produit par les nerfs, mais également par d'autres cellules sur lesquelles va agir ce fameux gel. C'est ça justement le but de la production de ce gel. La deuxième des trois phases de tests nécessaires pour l'homologation par les autorités sanitaires doit débuter prochainement, nous dit-on. Ça servira justement à mesurer les effets chez les patients qui ont subi une ablation de la prostate et puis d'autres volontaires. Donc on va avoir un protocole expérimental qui va être mis en place directement sur des hommes là cette fois-ci, mais en tout cas voilà, on n'est vraiment plus dans une recherche sur des animaux. Les gens doivent comprendre qu'il ne faut pas tuer les animaux, même ceux qui sont venimeux, car ils sont comme une bibliothèque de molécules encore inconnues, c'est ce que fait valoir donc cette chercheuse Maria Helena Borges, cette chercheuse brésilienne. Donc voilà, l'araignée banane qui est une alliée un peu inattendue contre les troubles de l'érection. Effectivement, on n'aurait pas cru ça, mais quelque part, vous voyez, on est toujours dans l'idée de trouver des thérapies en s'inspirant justement des modèles animaux. Et là, c'est encore le cas et c'est assez intéressant, bien évidemment. Autre information, alors ça on l'a peut-être lu un petit peu dans les journaux, c'est au niveau du Mont Blanc, et on se demande ce qu'il arrive au Mont Blanc. Le célèbre sommet des Alpes serait-il en train de fondre comme neige au soleil? Et bien apparemment oui, parce que ça a été mesuré dernièrement, il y a quelques semaines, le plus haut sommet d'Europe n'affiche plus qu'une altitude de 4805 mètres, soit un petit peu plus de 2 mètres exactement de moins qu'il y a 2 ans. En 2 ans, donc, le Mont Blanc aurait donc rapetissé, une tendance qui n'est cependant pas nouvelle. Hein. C'est ce que témoigne l'historique des mesures réalisées par les géomètres experts de Haute-Savoie. Voilà 16 ans maintenant que le sommet perd progressivement de l'altitude. Mais la mesure réalisée cette année apparaît toutefois comme un record sans précédent, détrônant celle de 2019 qui était alors déjà considérée comme exceptionnellement basse, parce qu'on était à l'époque à 4806, là on descend encore 4805 mètres. Est-ce que c'est un phénomène inquiétant? Les articles que l'on peut trouver sur ce sujet-là nous disent non et oui, parce que il est normal que l'altitude du sommet fluctue de manière saisonnière et en fonction des années, en raison de la variabilité de l'épaisseur de la couche de neige. Alors il faut en effet bien garder à l'esprit que la mesure est ici réalisée sur la surface neigeuse et non pas sur le socle rocheux. Donc l'altitude du socle rocheux, il reste stable bien sûr, et ensuite c'est la couche de neige que l'on rajoute et que l'on mesure par la suite. Les variations de quelques millimètres que l'on peut observer au cours des ans sont liées à la combinaison de deux facteurs, le soulèvement tectonique des Alpes et l'érosion qui affecte le sommet, bien évidemment. Ça, c'est au niveau du socle rocheux, de la roche, tout simplement. Mais l'épaisseur de la couche de neige est thermelle, et quant à elle, très variable, et dépend, bien sûr, des conditions de précipitation et du vent. Et donc, dans ce contexte, elle peut également changer très rapidement, en quelques jours, ce qui doit faire considérer, bien sûr, ces mesures réalisées à l'instant T avec prudence. Néanmoins, la diminution de l'épaisseur de la couche de neige sur les dernières années est en accord avec un déficit de précipitations et bien sûr des épisodes caniculaires durant l'été. Une observation qui illustre à quel point les zones de haute altitude sont elles aussi sensibles au dérèglement climatique actuel. L'année dernière, en juin 2022, des températures de plus de 10 degrés avaient ainsi été enregistrées à proximité du sommet. Des records de chaleur, plus 10 degrés, il faut quand même le faire, qui entraîne bien sûr une fonte de la couverture neigeuse, qui n'est pas renouvelée à cause de la sécheresse. Et les prochaines années devraient permettre d'apprécier s'il y a effectivement une perte continue de l'épaisseur de glace. Il est encore trop tôt, en disant qu'on a une tendance, on va voir si elle se confirme et si elle se précise, cette tendance dans quelques décennies. Eh bien, ce sommet emblématique des Alpes pourrait bien ne plus avoir de blanc que le nom, parce que du coup, si la couche de neige disparaît, on n'est plus le Mont Blanc, on a le Mont tout court, et on n'aurait plus que la roche qui, elle, pour l'instant, est quasi stable au niveau de l'altitude. C'est ça qui est assez inquiétant et qui est une illustration supplémentaire, bien évidemment, de ce qu'on appelle le dérèglement climatique, bien sûr. Des petites brèves qui nous viennent du Japon, par exemple. Une équipe japonaise a identifié une voie génétique prometteuse impliquée dans le contrôle du développement dentaire. De quoi nourrir bien sûr l'espoir d'être un jour en mesure de faire repousser les dents. Il y a des premiers essais encourageants qui ont été menés chez des furets, une étape qui devrait conduire d'ici à un an au démarrage des premiers essais de régénération dentaire chez l'homme. C'est quelque chose qui pourrait devenir réalité, hein, de faire repousser les dents. Ça nous vient donc de l'université de Kyoto au Japon. Et effectivement, voilà, on est dans des phases expérimentales assez abouties et on suivra bien sûr cela dans les prochaines... maintenant, ça va être l'année prochaine, donc on est vraiment plutôt en 2025 pour avoir le retour de l'analyse des résultats. Des analyses qui ont été menées par spectroscopie laser, c'est donc une technologie un petit peu d'imagerie spécifique, des analyses qu'on a fait sur des billets de banque qui ont été conçus et imprimés par Benjamin Franklin. Nous sommes dans les années 1730 et ces analyses montrent que Benjamin Franklin avait mis au point les premières techniques anti-contrefaçon. Nous sommes en 1731, précisément. Il y a des encres spéciales, difficiles à se procurer pour les faussaires, qui ont été utilisées. Et il avait créé également une pâte à papier spéciale qui intégrait des minuscules fibres colorées. C'est l'Université Notre-Dame des États-Unis qui nous parle de cette découverte, de ce secret des billets de banque de Benjamin Franklin. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que les technologies qu'on utilise depuis très longtemps, finalement viennent du XVIIIe siècle et notamment de Benjamin Franklin qui les avait mises au point pour ses propres billets de banque qui ont été conçus et imprimés au XVIIIe siècle. C'est assez étonnant, je trouve, d'avoir déjà cette idée assez ingénieuse et quelque part les technologies des billets de banque n'ont pas nécessairement évolué d'une façon aussi radicale que cela. En tout cas, j'ai pas l'impression que récemment on a plus de technologies infaillibles au niveau des billets de banque. Je me trompe peut-être, à voir bien sûr. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. Un peu de musique également, parce que ça fait du bien ce 11 novembre.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes, etc. Et la loi triche, l'imposerie des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre et chérie, ce qu'ont la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt.
Nous sommes le 11 novembre, il était normal d'écouter Mélisse Mel avec Aux Armes sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net sur Internet. Tous les samedis entre 12h et 13h, on fait la revue de presse de l'actualité scientifique. Alors, actualité est un grand mot, parce que je me suis rendu compte que cet article que j'avais repéré il y a quand même quelques temps, je ne l'avais pas évoqué, ce que c'était le succès historique pour l'Inde le 23 août dernier, l'alunissage, pardon, c'est-à-dire l'atterrissage sur la Lune quelque part, il a été réussi pour la mission Chandrayaan 3 près du pôle sud de la Lune. Et c'est en fait un contraste assez intéressant face au cuisant échec russe qui avait été annoncé deux jours plus tôt. Donc, on a plus quelque part le souvenir des Russes qui ont foiré que des Indiens qui, eux, ont réussi. Et c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment l'idée de pouvoir remettre en place des bases lunaires et l'idée, c'est de pouvoir récupérer des informations. Et il y a donc cette mission Chandrayaan 3 qui a été lancée, qui a atterri et qui va nous permettre d'avoir des informations. Bravo à l'Inde pour cela. Il y a des mesures qui ont été faites, notamment de ce qu'on appelle l'ionosphère de la Lune. C'est une couche de plasma chargée électriquement et elle est à peu près 100 km d'épaisseur au niveau du pôle sud. Et on a analysé donc cette ionosphère lunaire et ça montre qu'elle est composée d'un mélange clairsemé d'ions et d'électrons. Et cette information est intéressante parce que la densité de ce plasma, elle peut varier à mesure que le jour lunaire avance, évidemment, donc on a réussi à avoir des informations un petit peu plus précises. Mais si on fait une comparaison avec la Terre, ça nous permet de voir que les futurs systèmes de communication et de navigation sur la Lune vont être vont être conditionnés par rapport à la densité électronique qui est présente. Et plus cette densité électronique est élevée, plus les signaux radio mettent du temps à traverser cette fameuse ionosphère. Comme là, la ionosphère de la Lune semble un peu clairsemée, ça va être assez intéressant parce qu'on ne devrait donc pas avoir de problème de transmission d'informations. Donc c'est une donnée totalement nouvelle et on ne le savait pas. Autre apport de cette mission indienne de Chandrayaan 3, les futurs architectes de base lunaire disposent désormais de nouvelles informations sur la température du sol qui pourrait servir un jour, bien sûr, de matériaux de construction, bien évidemment. Alors, la sonde de l'atterrisseur montre que la température de jour à 8 cm de profondeur, elle est d'environ 60 degrés inférieure à celle de la surface. Seulement 8 cm d'épaisseur et on a déjà une différence de 60 degrés. C'est quand même assez étonnant. Les capteurs de la mission ont par ailleurs enregistré des températures de surface qui sont supérieures à moins 10 degrés, c'est-à-dire vraiment plus élevées que ce qui avait été enregistré par des missions précédentes. Donc on a vraiment des nouvelles informations et des nouvelles informations utiles pour la suite des missions, bien évidemment. À la surface, le rover a relevé sur son parcours la présence d'aluminium, de silicium, de calcium, de fer et de soufre. Et c'est un peu une surprise pour cet élément parce que ça pourrait être le vestige du passé de la Lune, initialement recouvert d'une épaisse couche de roche en fusion. Eh bien, la surface de la Lune se serait cristallisée en refroidissant, à moins que ce composé ne provienne des astéroïdes qui bombardent régulièrement la surface de la Lune. Et un tel phénomène pourrait d'ailleurs expliquer le petit épisode sismique de 4 secondes qui a été enregistré par le sismographe de l'atterrisseur. Alors, cela pourrait aussi être un petit tremblement de terre, alors cette fois on va dire un petit tremblement de lune, provoqué par un ajustement tectonique local lié aux forces de marée exercées notamment par la Terre sur la Lune. Et donc après cette première journée de travail, eh bien l'atterrisseur et le rover de cette mission ont eu le droit à un repos bien mérité durant 2 semaines suivantes de nuit lunaire, bien sûr. Mais donc l'Inde décroche le pôle sud de la Lune et recueille des informations essentielles pour les futurs programmes de base lunaire. Donc on avait totalement oublié, on avait évoqué début septembre l'échec des Russes, mais effectivement il me semble avoir oublié de vous parler du succès de l'Inde dans cette conquête spatiale. En parallèle, toujours au niveau de l'espace, cette information qui nous vient de la NASA, qui a récupéré la capsule qui contient de la matière de l'astéroïde Bennu que une sonde avait collectée et ramenée sur Terre. La capsule a atterri il y a c'était courant octobre, à peu près un mois. Elle a atterri à l'endroit et à l'heure prévue. Les deux parachutes nécessaires à son atterrissage se sont correctement déployés. Un ingénieur de Lockheed Martin qui a construit la capsule, cet ingénieur a inspecté son état et a mesuré les niveaux de gaz autour d'elle pour s'assurer que l'équipe de scientifiques et techniciens en charge de la récupération des échantillons ne risquait rien, bien évidemment. Il faut savoir, dans le cas où la batterie de la capsule aurait été endommagée, il y a des gaz nocifs, comme par exemple le dioxyde de soufre, qui pourraient s'en échapper. Alors, il y a trois scientifiques de la NASA et de l'Université de l'Arizona qui ont récupéré donc des échantillons de sol, des échantillons d'air, du site d'atterrissage, pour cataloguer tout ce à quoi la capsule aurait pu être exposé. Alors, si de l'air ou de la matière du sol ont pour une raison ou une autre contaminé les échantillons de cet astéroïde à l'intérieur de la capsule, ce qui est très improbable, les scientifiques devront tenir compte de ces contaminants lorsqu'ils analyseront la composition chimique de la poussière de cet astéroïde Bennu. La NASA n'est pas la première agence spatiale à revenir sur Terre avec de la matière d'un astéroïde, mais elle est celle qui a rapporté le plus gros, en tout cas les plus gros échantillons, qu'on estime entre 100 et 250 grammes. Auparavant, il y avait deux autres missions, notamment une mission, ces deux missions étaient lancées par l'agence spatiale japonaise qui avait rapporté des échantillons d'astéroïdes sur Terre, mais chacune de ces missions a récupéré des quantités beaucoup plus petite que ce qui a été fait là cette fois pour cette mission Osiris-Rex qui a permis de ramener quand même des échantillons assez importants parce que si on arrive jusqu'à 250 grammes, c'est quand même déjà pas anodin. La NASA et l'équipe scientifique de la mission ne savent pas encore exactement combien de matière de cet astéroïde rapporte, mais on s'attend à une bonne surprise. L'objectif en fait de la mission, c'était de collecter au moins 60 grammes d'échantillons. D'après les observations de la caméra, les responsables s'attendent à un peu plus de 100 grammes, et donc, comme je vous l'ai dit, 250 grammes pour l'hypothèse la plus optimiste. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est quand même sur des quantités assez intéressantes. Une analyse très préliminaire des échantillons est d'ores et déjà prévue, et la NASA a donné ensuite un petit peu des informations régulièrement depuis ces 4-5 semaines qui nous séparent de l'atterrissage de cette sonde, pour essayer d'avoir des informations. L'idée, en fait, c'est de mieux comprendre l'histoire de notre système solaire, de la formation de notre planète, voire de fournir des informations sur l'origine de l'eau et de la vie sur Terre, bien sûr. Donc c'est ça qu'on souhaite savoir en récupérant ces échantillons extraterrestres. Mais en tout cas, voilà, la NASA a donc ramené sur Terre un trésor presque de matière extraterrestre avec succès. Et c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'il faut retenir de cette découverte, en tout cas de cette actualité, de cet article. On va parler médecine cette fois, on va un petit peu changer de sujet. Je vous parlais tout à l'heure du cerveau, je vous disais que c'est encore un sujet, en tout cas un domaine, un lieu, un territoire encore inconnu. L'une des finalités, bien sûr, des recherches qui sont engagées sur le cerveau, c'est d'essayer de trouver des thérapies, notamment à la maladie d'Alzheimer, une maladie qui affecte des millions de personnes à l'échelle mondiale et avec le vieillissement de la population, elle est de plus en plus fréquente. C'est la forme la plus courante de démence neurodégénérative chez les personnes âgées. Les mécanismes sous-jacents de cette pathologie sont encore peu connus. On sait que la maladie est caractérisée par l'accumulation de ce qu'on appelle des plaques amyloïdes et l'accumulation d'enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau. C'est donc des anomalies qui entraînent une inflammation, qui perturbent la communication au niveau des neurones et qui causent aussi la mort de ces neurones. Une étude récente de l'Université de santé et de sciences de l'Oregon a révélé un mécanisme inattendu dans le déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Ils ont constaté l'accumulation de fer dans le cerveau qui conduit à ce qu'on appelle la ferroptose. C'est une forme spécifique de mort cellulaire et ça conduit également à la destruction de certaines cellules qu'on appelle les microglies qui sont essentielles au fonctionnement cérébral. Ce sont des découvertes vraiment intéressantes, importantes, inédites, qui ont été publiées dans la revue Annals of Neurology. Ces microglies, comme je vous disais, jouent un rôle essentiel dans le cerveau en tant que première ligne de défense immunitaire. Elles sont essentielles parce qu'elles veillent à éliminer les déchets cellulaires et notamment les débris de myéline, qui est l'un des composants des neurones. Et la myéline, elle peut être endommagée, donc il y a des débris, donc Ces cellules microglies, elles ont un rôle essentiel de nettoyage, on va dire, d'élimination. Mais le fait d'éliminer cette myéline, ça a un revers, ça libère du fer. Et les auteurs ont observé une dégénérescence de ces fameuses microglies dans des échantillons de tissus cérébraux qu'on a fait post-mortem. Donc on a récupéré ces échantillons sur des cadavres, en clair. Le fer issu de la myéline qui a été dégradé, ce fer lorsqu'il est en excès, eh bien il va provoquer ce fameux phénomène de ferroptose, c'est-à-dire qu'il va mettre en danger ces microglies. Et la ferroptose, c'est une forme spécifique de mort cellulaire programmée qui est distincte d'une autre forme de mort cellulaire, et elle est caractérisée par l'accumulation de fer à l'intérieur de la cellule et de la perte concomitante d'antioxydants qui conduit donc à des dommages oxydatifs, et ça conduit donc à la mort de la cellule. On a constaté cela, et donc c'est ça qu'il a découvert vraiment intéressant, parce qu'on considère, en tout cas l'hypothèse de travail elle est la suivante, l'accumulation de fer dans le cerveau peut déclencher, enfin pourrait déclencher la maladie d'Alzheimer. C'est ce que suggèrent justement ces chercheurs qui considèrent qu'il y a une cascade de dégénérescence qui trouve son origine dans des épisodes répétés d'afflux sanguin, d'apport d'oxygène réduit au cerveau. Et il y a donc des événements tels que des AVC ou des maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète qui pourraient être en partie responsables. La prise en charge de ce type de pathologie est une façon de prévenir la maladie d'Alzheimer. En termes thérapeutiques, cette découverte suggère d'orienter les recherches de traitement vers la régulation du fer et la protection de la myéline. De plus, ces nouvelles données pourraient s'avérer précieuses pour d'autres maladies comme la sclérose en plaques ou le trouble également du spectre de la neuromyélite optique. Donc c'est une découverte assez intéressante qui ouvre des voies aussi, qui ouvre d'autres voies, on va dire, pour d'autres pathologies. Affaire à suivre, bien sûr, mais c'est une découverte qui risque de faire grand bruit, et qui apporte des avancées totalement intéressantes et inédites, bien sûr. C'est ça, voilà, biotine, on parle d'espace, on parle du cerveau, on parle de l'actualité de la recherche au sens large, tous les sujets, bien sûr, parce que quelque part, ce qu'on évoque aujourd'hui, là, on est sur des étapes intermédiaires, mais ça nous permet de se dire, tiens, la science va s'orienter sur telle ou telle chose pour tel ou tel sujet, et on essaye de suivre un petit peu les avancées, bien évidemment. Donc on suivra un petit peu ces avancées au niveau de la recherche du cerveau. Je n'ai aucun doute qu'on aura des informations, parce qu'on a assez souvent des informations quand on parle du cerveau sur l'antenne de Graphite. On écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite, et on se retrouve juste après, bien sûr.
Dans des soupirs
Idiot, c'était Joe Wedding et Jean Felsine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h avec la rediffusion le mardi matin à 10h. Vous écoutez Biotine pour avoir un petit peu, comment dirais-je, un état des lieux de la recherche scientifique internationale. On va parler, on parle un petit peu de tous les sujets et on va parler des peintures préhistoriques. Qui n'a jamais eu l'impression de reconnaître un visage ou la silhouette d'un animal dans un nuage ? Un paysage quelconque ou une image totalement banale, c'est un phénomène psychologique assez fréquent. C'est ce qu'on appelle la pareidolie, qui est la capacité d'identifier des formes familières en présence de stimuli visuels de nature très divers. C'est en quelque sorte une forme d'illusion optique. On voit un nuage qui nous fait penser à quelque chose. Notre cerveau a en effet une tendance naturelle à reconnaître des formes connues et communes dans des schémas parfois très aléatoires. C'est le fameux test de Rorschach, je ne sais pas, qui se base d'ailleurs sur cette capacité cognitive pour mener des analyses psychologiques de certaines personnes. Et donc la pareidolie est donc un processus neurophysiologique complexe qui pourrait d'ailleurs peut-être expliquer la créativité des peintres de la préhistoire. Ceux qui ont déjà participer à une visite de grotte savent à quel point l'environnement souterrain, surtout lorsque l'éclairage est faible et dirigé d'une certaine manière, ça fait fonctionner l'imagination. Les formes étranges des concrétions, les irrégularités des parois, ça peut faire naître une multitude d'images. Un exemple, on ne peut plus typique de ce qu'on appelle donc la pareidolie. Si notre cerveau nous joue ce genre de tour, ils ne sont donc pas inconcevable que les hommes de la préhistoire, ils aient également reconnu dans cet environnement étrange et impressionnant les formes animales typiques qui peuplaient alors le quotidien. Et donc il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Cambridge Archaeological Journal qui montre en effet que la pareidolie aurait pu largement influencer les artistes à l'œuvre dans les grottes il y a de cela 40 000 ans. Pour arriver à cette conclusion, une équipe de scientifiques a étudié de nombreuses représentations d'animaux dans plusieurs grottes du nord de l'Espagne. Pour se mettre dans les conditions les plus proches de celles des artistes de la préhistoire, les chercheurs ont d'ailleurs utilisé la réalité virtuelle pour modéliser les murs des grottes, illuminés sous un éclairage similaire à ce qu'avaient pu avoir nos ancêtres. Et l'objectif, c'était de reproduire le plus fidèlement possible les effets visuels qu'ont pu produire les parois des grottes sur un œil humain. Résultat, on constate que plus de 50% des peintures montrent une forte corrélation entre la morphologie de la paroi dans ces conditions d'éclairage et celle de l'animal représenté. Les courbes de la surface rocheuse, les fissures, tout ça est souvent utilisé pour représenter une partie de l'animal. Ça peut être le dos, ça peut être les cornes, ça peut être les têtes. Et ça suggère donc que la pareidolie a fortement influencé les créations des artistes de la préhistoire. Toutes les images peintes ne peuvent cependant pas être expliquées par la pareidolie. Ça montre que si ces illusions d'optique ont bien pu fournir une part de l'inspiration artistique, les hommes préhistoriques ont également su utiliser les murs des grottes pour laisser libre cours à leur propre créativité. Mais voilà, on aurait l'une des énigmes, l'une des clés de l'énigme des peintures préhistoriques qui se cacherait dans ces roches. C'est assez intéressant, on ne parle pas souvent de préhistoire, on ne parle pas souvent de grottes et on ne parle pas souvent de dessins préhistoriques dans cette émission. Je trouvais que cet article de Futura Science était arrivé à point nommé en clair. Autre chose, alors, c'est quelque chose quelque part que l'on savait un petit peu, mais on a maintenant de plus en plus de chiffres qui permettent d'illustrer que la pollution de l'air, la pollution atmosphérique, représente un problème mondial de santé publique, un problème majeur et un problème grandissant. Il y a donc des nouvelles données qui ont été communiquées il y a quelques semaines par l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago qui sont particulièrement inquiétantes. Les auteurs utilisent l'indice de qualité de l'air pour évaluer la pollution atmosphérique. Cet indice prend en compte les taux de différents polluants atmosphériques et ceux-ci sont pondérés en fonction de leur impact sur la santé humaine. Alors, par exemple, le benzène est toxique à un très faible taux, tandis que l'ozone n'est toxique qu'à partir d'un taux un petit peu plus important. Donc on fait bien sûr une échelle qui est la plus... la plus sérieuse, ou en tout cas la plus évidente possible. Et donc les auteurs de cette étude sont formels. La qualité de l'air que nous respirons diminue chaque année et cela a un impact sur notre espérance de vie. Par exemple, si la pollution de l'air aux particules fines se situait en deçà des limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé, chaque personne verrait son espérance de vie augmenter de 2 à 3 ans. Je pense que c'est une information qui est totalement, après, assez, comment dire, éloquente. Cet impact sur l'espérance de vie est aussi important que celui de la consommation de tabac. Il est supérieur à celui de la consommation d'alcool ou à celui de la consommation d'eau non potable. Plus intéressant encore, il est 5 fois supérieur à l'impact des accidents de la route sur l'espérance de vie des personnes. La pollution de l'air, elle est répartie de manière très inégale dans le monde. En particulier, il y a 6 pays qui concentrent une grande majorité de la pollution en particules fines, qui sont bien sûr les plus dangereuses. Il s'agit donc du Bangladesh, de l'Inde, du Pakistan, de la Chine, du Nigeria et de l'Indonésie. C'est une injustice d'autant plus criante que les personnes concernées ne disposent quasiment pas de moyens individuels de limiter leur exposition, comme pour l'alcool ou le tabac. Alors en Afrique, par exemple, seulement 5% des pays disposent de normes concernant la qualité de l'air. C'est pourtant la base d'une politique d'assainissement de l'air respiré par les populations. Les pays en voie de développement ne s'intéressent pas encore suffisamment à ce sujet. Les rejets polluants ne sont pas convenablement réglementés. La situation est particulièrement critique en Asie du Sud-Est. Alors pour lutter de manière coordonnée et mondiale contre le virus du sida, la tuberculose, le paludisme, il existe des fonds mondiaux importants. Et pour le moment, ce n'est pas le cas en ce qui concerne la qualité de l'air. Alors que l'impact sanitaire est colossal, c'est ce que rappelle donc cet article qui émane de l'Université de Chicago. Alors, il existe néanmoins des données encourageantes. La Chine connaît des niveaux de pollution atmosphérique importants, mais ceux-ci ont diminué de moitié depuis une dizaine d'années grâce à une politique d'assainissement de l'air menée par le gouvernement. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore assez catastrophique. Et donc, la pollution de l'air tue plus que l'alcool ou l'eau insalubre. C'est cet article qui reprend donc le communiqué de l'Université de Chicago. Voilà, c'est anxiogène parfois l'actualité scientifique, mais bon, que voulez-vous, c'est la science. Allez, deux dernières petites informations, les trois dernières petites brèves avant de nous quitter. La première, elle nous vient de l'Université de Bordeaux. Il y a un nouveau modèle qui permet de simuler les atmosphères planétaires qu'on a mises en place et les résultats révèlent que Vénus, la planète Vénus, pourrait avoir conservé dans ses entrailles une grande fraction des réserves d'eau qu'elle a incorporées au moment de sa formation. Jusqu'ici, on pensait qu'elle a une température de surface assez importante de 460 degrés. Donc, on s'est dit que la présence d'eau était impossible. Eh bien, les résultats de recherche de l'Université de Bordeaux semblent prouver le contraire. En tout cas, voilà, il y a un nouveau modèle de simulation qui montre que Vénus aurait pu encore conserver dans ses entrailles des réserves d'eau. À confirmer, bien sûr, nous ne sommes pas allés voir sur place, mais ça peut être assez intéressant et du coup, ça peut donner des perspectives. Mars, maintenant, c'est démodé, on ira sur Vénus. Tiens, on parle de Mars, la colonisation de Mars. Selon des nouvelles simulations informatiques, 22 colons suffiraient à assurer les tâches essentielles pour se maintenir sur Mars pendant 28 ans. Le nombre d'astronautes suffisant pour coloniser Mars est 22. Alors bien sûr, le groupe doit être constitué de personnalités que l'on va classer comme agréable ou sociable. Oui, je pense que c'est important. Mais seulement 22, c'est assez intéressant. Et c'est un chiffre qui nous vient là encore de l'Université de Bordeaux qui communique pas mal en ce moment. Enfin, dernière information avant de nous quitter, ça nous vient de l'Université du Kent au Royaume-Uni. On a récupéré sur le toit de la cathédrale de Canterbury au Royaume-Uni, des micro-météorites. 5000 tonnes de ces particules tombent sur notre planète chaque année. Elles sont recueillies habituellement en Antarctique où elles sont facilement repérables. Mais les toitures des édifices religieux anciens sont aussi des zones de collecte privilégiées parce qu'elles ont des surfaces planes peu accessible et la matière elle a pu s'accumuler pendant plusieurs siècles. Il y a une douzaine d'autres cathédrales britanniques qui devraient être exploitées, mais voilà, on récupère sur les toits des cathédrales au Royaume-Uni de la poussière cosmique. Et vous avez des photos que vous pouvez par exemple trouver sur Science et Avenir pour voir ces récoltes de poussière cosmique sur les étoiles, sur les toits de nos cathédrales. Qu'est-ce que vous voulez ? On va terminer avec ça, bien évidemment, sur l'antenne de Graphite, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission et on va pouvoir continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Vous nous suivez sur graphite.net, pour ceux qui nous suivent sur Internet, et sur la bande FM 94.9, bien sûr, pour ceux qui nous suivent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.